qui est juriste, qui va nous parler de, ben, des implications, des conditions d'une éventuelle licence légale. En sachant que nous parlons d'une légalisation du peer-to-peer, licence légale et d'une piste dont Jean-Vincent va nous parler.
Merci beaucoup, merci pour l'invitation et pour cette réunion qui est vraiment très enrichissante. Je réagis juste vraiment en une phrase parce que ça soulève même derrière un problème qui va au-delà de la gestion des DRM, c'est plus simplement savoir qui gère l'information sur l'identité des titulaires de droits et notamment particulièrement des producteurs. Parce que la question de savoir qui est producteur et titulaire des droits de producteur, c'est celui qui a l'initiative et la responsabilité de l'enregistrement original, ça n'est pas le distributeur. Ça n'est pas l'éditeur. C'est une question qui est en réalité déjà très sensible aujourd'hui, notamment quand vous voyez sur des supports le petit P dans un cercle qui désigne en principe le titulaire des droits de producteur, eh bien, il arrive assez fréquemment qu'en réalité, le nom qui est à côté est le nom d'un éditeur ou d'un distributeur, mais pas le nom du producteur. Alors, au niveau de gestion de base de données et puis au niveau de la gestion de DRM, c'est une question qui devient encore plus cruciale. Alors, on est sur un tout autre terrain que le terrain technologique. Je me suis dit que je pourrais déjà surtout clarifier la notion même de licence légale, parce que cette expression circule beaucoup en ce moment. Parfois, elle soulève, elle provoque des réactions virulente, sans que les gens, en réalité, à mon avis, comprennent exactement de quoi il s'agit. J'ai même vu du côté des auteurs des réactions presque dogmatiques avec des arguments qui, en fait, étaient tout à fait faux. Alors, la licence légale, c'est quoi ? C'est une autorisation qui est donnée par la loi selon des modalités qui sont déterminées par la loi. Donc, ces modalités peuvent aboutir, par exemple, à ce que une commission administrative fixe le prix de telle ou telle utilisation, par exemple la diffusion de disques par énergie, en pourcentage des recettes de énergie. Ce qui signifie, là j'écarte une affirmation fausse, qu'une licence légale ne veut pas dire nécessairement qu'on est déconnecté du chiffre d'affaires ou des recettes de l'utilisateur, parce que je l'ai entendu dans la bouche d'un représentant d'une grande société d'auteurs. Non, ça peut être en fonction des recettes, ça peut être forfaitaire, et en droit d'auteur, hors licence légale, il y a des mécanismes qui sont proportionnels à des recettes et dans certains cas qui sont forfaitaires. Par exemple, la sonorisation d'un lieu public, les droits d'auteur sont forfaitaires. Les droits d'auteur sur des diffusions à la télévision, c'est proportionnel aux recettes, etc. Donc licence légale, en réalité, en ce qui concerne l'économie, le prix, ça n'est pas nécessairement différent d'autres mécanismes. Par ailleurs, la licence légale a pour effet de déterminer, et ça c'est une différence très importante, comment se partagent les sommes perçues entre les différentes catégories d'ayants droit. Et c'est ça le point sensible. Quand on est dans le domaine purement contractuel, la loi ne dit pas quel est le pourcentage qui doit revenir à telle ou telle catégorie d'ayants droit. Quand on est en licence légale, par exemple, licence sur la copie privée, la loi dit, dans le domaine audiovisuel, un tiers va aux producteurs, un tiers va aux auteurs, un tiers va aux artistes. Alors c'est, de mon point de vue, la grande question, celle du partage, et c'est manifestement une des raisons pour lesquelles certains ne veulent pas des licences légales s'agissant de certaines utilisations de masse. On sent bien même qu'il y a une poussée très forte pour réduire le champ des licences légales actuelles. Je vais vous donner un exemple très simple. C'est celui de la radio numérique, hertzienne. Il y a en ce moment des pressions assez fortes en France pour dire au gouvernement que lorsque la radio numérique hertzienne se développera, il faudra clarifier le fait qu'elle ne doit pas entrer dans le régime de licence légale, qui est celui qu'on appelle la rémunération équitable, et à partir duquel les radios sont libres d'utiliser les disques, mais doivent obligatoirement payer une rémunération partagée 50-50 entre artistes, interprètes et producteurs. Or, la radio hertzienne numérique n'est pas différente dès lors que c'est du flux continu de la radio hertzienne analogique. En réalité, derrière, il y a la volonté de sortir de la règle du partage 50-50 et d'arriver à des règles de partage qui soient en fait le résultat des négociations de contrats individuels entre producteurs et artistes, qui sont évidemment en général déséquilibrée. Alors, au-delà de la question de la notion même de licence légale, je voudrais dire que dans les idées qui circulent actuellement sur licence légale pour le numérique, en fait, c'est pas pour tout ce qui est numérique. Hein, donc, il y a des utilisations classiques, je dirais, qui n'ont pas du tout vocation à entrer dans les licences légales. Exemple, tout ce qui touche à la reproduction des enregistrements. La reproduction, c'est forcément quelque chose qui relève des droits exclusifs et des contrats et qui ne peut pas rentrer dans des licences légales dès lors que je ne parle pas de copie privée, hein, évidemment. Donc, je ne sais pas, la synchronisation, par exemple, avec des images de pubs, de films ou autres, c'est quelque chose qui n'a absolument pas vocation à rentrer dans une licence légale, et pourtant, on peut tout à fait être dans le domaine numérique. Autre exemple, plus délicat, plus sensible, c'est celui de la mise à disposition interactive, par exemple, les services de vente en ligne, par exemple, iTunes. En l'état du droit, et surtout en l'état des instruments, des traités internationaux, ce type d'utilisation, d'exploitation, fait l'objet de droits qu'on appelle droits exclusifs, c'est-à-dire d'autoriser ou d'interdire, qui sont incompatibles, absolument incompatibles, avec des licences légales, c'est-à-dire avec des systèmes où l'autorisation est donnée par le législateur. Et c'est d'ailleurs une des difficultés, je vais en parler, qu'on rencontre en ce qui concerne le peer-to-peer, puisque l'upload part d'un particulier pour après aboutir à ce qu'un autre particulier télécharge, est une forme, cet upload est une forme de mise à disposition du public qui actuellement est protégée au niveau international par un droit exclusif. On ne peut pas créer une licence légale au type de l'upload. Mais je vais vous parler rapidement d'une solution qui permettrait de résoudre ce problème. Par contre, là où la notion de licence légale se justifie tout à fait, c'est déjà aujourd'hui sur les supports numériques de copie privée, donc CDR, DVD-R, etc. Donc ça marche, ça fonctionne bien. Entre parenthèses, je souligne le fait que ça a le mérite, premièrement, d'être co-géré par tous les ayants droit, c'est-à-dire c'est co-géré par auteurs, artistes et producteurs, ce qui veut dire qu'ils sont capables de co-gérer ensemble un système. Avant les licences légales, jamais vous ne pouviez trouver un quelconque exemple de droit de propriété intellectuelle qui soit co-géré par les auteurs, les artistes et les producteurs. Et c'est intéressant. Je trouve que c'est dans un souci de dialogue, c'est un mécanisme qui, en fait, impose aux partenaires dans ces secteurs de travailler ensemble. Après, sur la copie privée numérique, il y a d'autres formes de copie, et je prendrai surtout l'exemple des baladeurs. Tout le monde ne le sait peut-être pas dans cette salle, les baladeurs, par exemple les iPods, sont soumis à la rémunération pour copie privée. Et d'ailleurs, Apple a essayé de ne pas payer cette rémunération, a résisté pendant un certain temps, jusqu'au moment où il y a eu un article dans la presse qui a fait état de leur attitude à l'égard des auteurs et des artistes, et le problème a été assez rapidement réglé derrière. C'est le baladeur intègre un support qui permet de faire de la copie privée dès lors que c'est pour l'usage du copiste. Autre exemple, là, plus délicat, c'est celui des web radios. Alors, tout ce qui est transmission en flux continu, communication au public en flux continu sous toute forme, ça peut être la radio hertzienne, mais ça peut être aussi le câble, ça peut être aussi, par fil aussi, le web radio, la web radio en flux continu, c'est-à-dire dès lors qu'on n'est pas dans de l'interactivité. Eh bien, tout cela doit normalement rentrer dans un régime de droit à rémunération et, en ce qui concerne la France, devrait, je parle au conditionnel, entrer dans le champ de la rémunération équitable telle qu'elle est payée, par exemple, par énergie dans le domaine hertzien. Très intéressant parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a un affrontement entre, d'une part, les producteurs et d'autre part les artistes, sur cette question. Les producteurs veulent que ça reste dans du droit contractuel pur, et les artistes disent non, je ne vois pas la différence entre une web radio et une radio hertzienne, c'est du flux continu, et le partage 50-50 devrait s'appliquer, c'est le principe qui se retrouve au niveau international et que nous devrions respecter en France. Eh bien aujourd'hui, on n'a toujours pas résolu ce problème, le législateur, si je puis dire, n'a pas résolu le problème, n'est pas intervenu pour clarifier cette question. Et le résultat de ça, c'est que la web radio, le marché, la web radio, l'activité de la web radio ne s'est pas développée en France. Ce qui est, au-delà des aspects financiers, des intérêts particuliers par rapport à l'argent qu'on pourrait retirer des droits, ce qui est un énorme problème au plan de l'exposition de la musique, puisqu'on sait que sur la FM, l'exposition de la musique n'est pas du tout satisfaisante. Le taux de rotation des disques sur les FM est devenu catastrophique, à la baisse évidemment, et la web radio est un facteur d'espoir très important pour les artistes. Donc on voit qu'un problème juridique qui a été utilisé pour faire échapper à la licence légale une activité, la web radio, aboutit en fait sur le plan collectif et culturel à quelque chose qui est totalement anormal, surtout dans notre pays, je trouve. Et enfin, je termine par le téléchargement, qui en lui-même, il y a des grandes divergences entre juristes là-dessus, mais en lui-même n'est qu'un procédé de fixation sur un support. Et donc, une copie privée, dès lors que cette fixation est destinée à l'usage du copiste. Alors, quand le mot piraterie, piratage est utilisé sans arrêt, quand on parle de téléchargement, alors là, je le dis avec certitude, c'est absolument impropre, c'est la propagande. Il y a des cas, un certain nombre de cas de téléchargement, je parle à une échelle, à une grande échelle, qui sont des actes parfaitement licites parce qu'ils répondent à la définition de la copie privée. Le problème, c'est qu'il y a une résistance énorme pour qu'on arrive à encadrer ce type de copie privée par un régime de rémunération. Donc, c'est licite, mais il n'y a pas de rémunération en face. Nous étions avec certains de mes collègues récemment en discussion avec l'un des ministres qui est actif sur ces questions actuellement, et son principal conseiller technique nous disait, vous savez, je voudrais vous dire quand même, c'est une idée, le fait qu'il n'y ait pas de rémunération pour copie privée sur les disques durs nous met en infraction par rapport à la directive Société de l'information, qui impose que dès lors qu'il y a copie privée, et que cette copie privée n'est pas rendue impossible par des mesures techniques, l'État doit assurer une compensation, une rémunération équitable pour les auteurs, les artistes et les producteurs. Très intéressant. C'est très intéressant. Et entendre ça, je trouve, du conseiller d'un ministre, montre bien à quel point, en fait, on est dans une certaine méconnaissance du droit. Effectivement, la directive 2001-29, la directive Société de l'information, impose que tous les actes de copie privée, dès lors qu'ils ont lieu, fassent l'objet d'une rémunération. Donc, le téléchargement est un mode parmi d'autres de copie privée. D'ailleurs, on peut télécharger, et on va pouvoir de plus en plus télécharger sur des supports autres que les disques durs. On peut télécharger sur des téléphones et autres équipements mobiles. Alors, là, maintenant, je développe et j'essaie de prendre 5 minutes parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Sur la proposition qui a été faite par différentes parties. L'ADAMI a été un peu précurseur, mais on n'a pas du tout l'exclusivité de cette idée. Elle a été développée très fortement au Canada. Elle a fait l'objet de travaux importants, notamment de la part d'universitaires aux États-Unis. Et surtout, elle fait l'objet d'un consensus au sein d'une alliance qui a été créée entre toutes les organisations d'artistes et les plus importantes organisations de consommateurs et d'union familiale. Et cette idée consiste à dire que l'ensemble de la problématique peer-to-peer, l'ensemble de l'acte ou des actes peer-to-peer, d'échange entre particuliers, devrait être encadré par un système de rémunération forfaitaire globale. Pour préciser que cette rémunération doit faire l'objet d'une répartition entre les auteurs, les artistes et les producteurs, selon des systèmes qui d'ailleurs ne sont pas forcément aujourd'hui tout à fait au point, parce qu'il y a évidemment un énorme problème pour arriver d'une manière gérable et à un coût raisonnable, identifier à peu près qu'est-ce qui est échangé, qu'est-ce qui est le plus échangé et répartir vraiment à ceux qui ont droit à cet argent. Et l'autre chose, c'est que les systèmes de ce type-là, rémunération forfaitaire, comme la rémunération pour copie privée, permet aussi à hauteur de 25% dans la législation actuelle d'être affecté à des aides à la création, au spectacle vivant et à la formation des artistes, ce qui est quand même un point très important. Alors notre proposition commune, je dirais, et je vais surtout développer celle que la DAMI elle-même présente hein, aujourd'hui auprès des parlementaires, c'est l'idée suivante. Elle est un peu complexe, mais je vais essayer de la simplifier. Le téléchargement lui-même, donc, on part du principe que c'est une copie privée, même, et c'est un postulat discutable, même quand celui qui télécharge utilise un logiciel de peer-to-peer qui lui impose de mettre à disposition le fichier qu'il télécharge. Je dis que c'est discutable parce que si je mets à disposition du public quelque chose que je copie, la copie n'est plus réservée à l'usage privé du copiste. Il faut être honnête avec ça. On ne peut pas dire, avec certitude, en tant que juriste en tout cas, que c'est une copie privée. C'est une copie que je fais pour moi, mais il se trouve que le logiciel que j'utilise, qui d'ailleurs est un logiciel licite, m'impose de le mettre à disposition. Néanmoins, notre proposition, c'est de traiter ça sur un plan juridique de la même manière que n'importe quelle autre forme de copie privée. Maintenant, il y a un deuxième aspect dans le peer-to-peer qui est celui de l'upload, de la mise à disposition. Et là, ce que nous proposons est nouveau par rapport à ce qui existe actuellement en France, c'est un système de licence contractuelle étendue. C'est un système qui existe dans les pays nordiques, qui existe en Hongrie également, et qui est à peu près similaire à ce qui existe dans le domaine des accords collectifs syndicaux. Vous avez des organisations professionnelles qui signent un accord syndical, par exemple une convention collective de branche, puis l'État intervient et par un arrêté ministériel étend l'effet de cet accord à l'ensemble de la branche concernée, à tous les salariés, à tous les employeurs. Et bien dans le domaine des droits de propriété intellectuelle, il existe un système qu'on appelle aussi gestion collective étendue, qui permet, à partir d'un accord qui a été négocié par les parties concernées, de l'étendre et de le rendre obligatoire pour toutes les utilisations qui rentrent dans le champ de l'accord. Notre proposition sur laquelle on travaille sérieusement actuellement, notamment avec une équipe de juristes dirigée par un des principaux professeurs de droit français, qui est une personne qui a une très grande autorité au plan international, s'il a accepté d'ailleurs de travailler là-dessus, c'est qu'il trouve l'approche crédible. L'idée, c'est que, en fait, les ayants droit, auteurs, artistes et producteurs, négocient ce type d'accord avec les consommateurs et les unions familiales, puis fasse ratifier ces accords par voie d'extension, d'arrêté d'extension ou de décret d'extension, je pense plutôt en arrêté, afin que ça s'applique à tous, c'est-à-dire au public. Alors, je vous assure que là, nous ne sommes pas dans l'utopie. Hein. C'est un système qui, en théorie, est tout à fait possible. Maintenant, il faut étudier comment on peut proposer ça aux parlementaires. Et c'est ce sur quoi nous travaillons actuellement. J'apporte deux précisions. La première, c'est que cette idée-là pourrait être particulièrement simple à mettre en place si l'autorisation de l'upload est donnée dans le cadre d'un accord de ce type à ceux et seulement à ceux qui payent la copie privée au titre du téléchargement. C'est-à-dire qu'on réunit les deux mécanismes et on transforme ça en un tout homogène et en cela, on a résolu le problème de la compatibilité avec les traités internationaux. On a fait un ensemble qui permettrait de mettre le public, actuellement 5 millions de personnes, je n'apprends rien à personne ici, mais 5 millions de personnes qui pratiquent l'échange, dans une situation de sécurité juridique. La deuxième chose, c'est que pourquoi c'est compatible avec les traités internationaux, ce système de licence étendue par l'État ? Ça paraît un peu contradictoire avec la notion de droit exclusif et de propriété individuelle. Pourquoi ? Eh bien, c'est parce que les ayants droit peuvent, s'ils le souhaitent, s'opposer à ce que ces accords s'appliquent à eux. Vous pouvez avoir, un artiste qui dise « Moi, je ne veux pas rentrer dans le champ de l'accord de la licence contractuelle étendue. » Alors, sur des utilisations classiques, par exemple, dans les pays nordiques, ce système existe pour la radio, diffusion à la radio, on peut avoir un artiste qui dit « Eh bien, moi, je refuse d'entrer dans cette licence et par conséquent, la radio saura qu'elle n'a pas le droit de diffuser les enregistrements de cet artiste. » À l'échelle du peer-to-peer, on est quand même dans le domaine de la théorie, parce que, évidemment, imaginons même que Universal dise « Très bien, vous avez fait ça, mais moi, je refuse que l'ensemble du catalogue Universal rentre dans cette licence, et donc rentre dans cette solution globale qui permette au public de faire de l'échange tout en rémunérant les auteurs, les artistes et les producteurs. » On serait dans une situation ubuesque, où l'ensemble du système serait sécurisé, serait propre, serait légal, permettrait de rémunérer les ayants droit, et puis on aurait Universal qui seul pourrait aller faire des procédures judiciaires contre n'importe qui, dès lors que il s'avérerait, je ne sais pas comment d'ailleurs, il s'avérerait que tel ou tel particulier a fait de l'échange de répertoire produit ou détenu par Universal. Alors, c'est là que, il faut, à nouveau, j'essaie d'être tout à fait honnête intellectuellement dans cette réunion. C'est là qu'on trouve un peu les limites de ce système. Ça suppose quand même un certain niveau de consensus. Sinon, on peut arriver à des situations qui sont tout à fait contraires à ce qui est recherché. Mais franchement, par rapport à une situation actuelle où on est dans une espèce de stratégie incompréhensible de répression des internautes, sans travaux qui soient sérieux sur des solutions constructives, parce qu'on n'arrêtera pas le peer-to-peer, cette solution-là, pour l'instant, on n'en a pas vu d'autres. S'il y en a d'autres qui sont meilleures, tant mieux. Mais cette solution-là, elle a l'immense mérite de s'appuyer sur le dialogue et la concertation entre les parties concernées. Et après, on demande à l'État, et c'est bien son rôle, d'intervenir pour étendre à l'ensemble de la population une solution qui a été négociée par les partenaires. Voilà. Je peux juste terminer par un point d'ordre stratégique, je dirais. Premièrement, manifestement, on aura du mal à renverser le rapport de force actuel si l'alliance entre les gens qui sont favorables à des solutions de ce type-là, je ne dirais pas forcément exactement à celle-là, mais de ce type-là, ne sont pas suffisamment nombreux. Et dans les membres d'une coalition de ce type, aujourd'hui on a réussi quand même à réunir toutes les organisations d'artistes et de consommateurs union familiale. C'est pas mal, mais ça ne suffit pas. Manifestement, ça ne suffit pas. On va monter en puissance, mais ça ne suffit pas. Il y a un partenaire qui doit impérativement venir de ce côté-là, c'est les fournisseurs d'accès. En tout cas, je crois qu'on est un certain nombre à considérer que les fournisseurs d'accès, il va falloir leur faire comprendre qu'ils vont y trouver leur compte, mais il faut aussi leur faire comprendre qu'il faut qu'ils arrêtent de jouer le double jeu qui consiste à signer une charte au mois de juillet qui en fait est une charte, c'est du vent cette charte, c'est une charte qui ne fait que dire que le juge doit intervenir pour ordonner telle ou telle mesure contre des internautes se livrant à la contrefaçon, mais c'est aussi une charte qui permet d'assimiler le téléchargement, tout téléchargement, à un acte de contrefaçon, et en cela elle est contraire à l'état du droit. Donc les fournisseurs d'accès font ça, ils savent très bien que cette charte n'est pas une solution au problème peer-to-peer, et dans le même temps, ils continuent à vendre des abonnements massivement au détriment des artistes. Donc, il y a un dialogue à établir avec eux, et il faut que les fournisseurs d'accès viennent de ce côté-là et s'associent à cette réflexion qui n'a pour objet principal que de mettre le public dans une situation normale de sécurité, et deuxièmement, de rémunérer surtout les auteurs et les artistes. Et puis, deuxième point, et j'ai terminé. Moi, j'ai constaté personnellement, c'est une opinion personnelle, que la meilleure façon d'empêcher ceux qui cherchent des solutions constructives d'être entendus, c'est de les piéger en les faisant entrer dans une sorte de dogmatisme. C'est-à-dire un discours qui soit un peu trop soit libertaire, soit collectiviste. En fait, si je peux me permettre, c'est une opinion qui n'est que personnelle, on a intérêt à rester à un niveau qui est strictement pragmatique et professionnel et pas trop rentrer dans le débat d'idées, parce que sinon, le débat sociétal, parce que sinon, on retrouve inévitablement des gens qui détournent notre pensée pour la transformer en pensée dite libertaire ou autre, qui n'est, en tout cas pour ce qui concerne les artistes, je pense en général, pas leur souci. Leur souci, c'est que leur travail soit rémunéré et c'est que leur public soit respecté. Voilà. J'espère avoir été clair. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Jean. Maintenant, je vais donner la parole à Christophe Espern de UCD.info qui va nous dresser rapidement un panorama, c'est-à-dire quelques vues par un citoyen de l'évolution du contexte juridique en matière de droit d'auteur et plus largement de propriété intellectuelle.